Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Une victoire sans éclat pour Narendra Modi, c'est ainsi que l'on peut décrire la situation au terme des élections générales qui se sont déroulées sur plusieurs semaines en Inde et viennent de se terminer. Près d'un milliard d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le BJP, le puissant parti du Premier ministre, qui est aussi la plus grande formation politique au monde avec 180 millions de membres, est certes arrivé en tête du scrutin, mais pour la première fois depuis 10 ans, celui qui gouvernait sans partage n'obtient pas à lui seul la majorité. Il lui a manqué 32 sièges pour cela, il lui en fallait 272, il n'en a obtenu que 240. Usure du pouvoir, campagne sans élan, échec personnel pour Narendra Modi, c'est la question. Le Premier ministre indien n'en remporte pas moins sa troisième victoire. Reste que les questions liées à l'emploi et à l'inflation n'ont pas suffisamment été ses priorités alors qu'elles l'étaient de l'opposition. Le chômage n'a jamais été aussi haut depuis les années 1970 en Inde et le secteur manufacturier est faible. Le pouvoir autoritaire de Modi va-t-il pouvoir continuer à s'exercer durant ce troisième mandat? Pour y répondre, nos invités, Christophe Jaffrelot, avec nous par téléphone, directeur de recherche aux séries de Sciences Po CNRS et professeur au King's College de Londres. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Le troisième mandat de Narendra Modi est lancé après des élections donc bien plus serrées qu'attendues, qui l'ont contraint à conclure un accord de coalition avec un groupe de 15 partis. L'Alliance démocratique nationale dispose de 293 sièges au Parlement, soit plus de la moitié des 543 sièges de l'Assemblée. Christophe Jaffrelot, le résultat de ce scrutin, c'est une surprise pour vous?
C'est une surprise dans la mesure où on était parti effectivement pour considérer que la victoire était acquise, mais ça l'est devenu de moins en moins sûr, ce pronostic, à mesure que la campagne se déroulait, car on a bien vu que Narendra Modi n'avait pas la même dynamique, et que les thèmes qu'il développait pendant la campagne étaient particulièrement éculés, donc n'ont pas fait mouche, alors que l'opposition, elle, faisait preuve d'unité, qui était une variable décisive, bien sûr, et puis avait levé des sujets, avait soulevé des problèmes qui étaient d'une importance considérable, à commencer par la question du chômage, qui est dans toute la jeunesse indienne un vrai fléau. Donc oui, surprise, mais je dirais que sur la fin de la campagne, j'avais prédit qu'il n'y aurait pas de majorité absolue pour le BJP. Pour une fois, mon pari a été tenu.
Jean-Luc Racine, une campagne à côté de la plaque pour Narendra Modi?
Ce qui est frappant, c'est quand on compare ce qu'était le programme électoral du BJP, le parti de Modi, et la campagne. Parce que finalement, le programme électoral, il parlait pas mal de questions socio-économiques et tout ça est passé totalement au second plan. Modi mettant en avant, après les deux premières phases d'élection, on a vu que la participation baissait un petit peu. En fait, au total, c'est 1% de moins, donc c'est pas très significatif. Mais on a vu là un tournant, alors véritablement étonnant, je veux dire. Quand Modi en arrive à dire que si l'opposition vient au pouvoir, elle prendra les bijoux des femmes hindoues pour les donner aux femmes musulmanes, je veux dire, on est dans quel monde? Donc, de toute évidence, ce genre de discours n'a pas suffi. Et beaucoup d'enquêtes menées sur le terrain, à la fois par des chercheurs ou des journalistes, ont montré que, effectivement, l'opposition qui a su s'unir, ce qui n'était pas gagné d'avance, a su mettre le doigt sur les vrais problèmes qui étaient le coût de l'inflation pour les plus pauvres, la question du chômage, on l'a dit. Donc il y a eu un décalage entre la volonté de Modi et puis aussi, finalement, ces élections, c'était en partie un plébiscite. C'était pas seulement élire une assemblée, c'est Modi, moi je suis finalement choisi par Dieu. Il l'a dit en campagne à Bénarès. Je suis l'instrument de Dieu. Alors évidemment, quand quelqu'un est l'instrument de Dieu, il faut commencer à faire attention.
Alors, bon, bien sûr, plébiscite. Alors, Christophe Jaffrelot, qu'est-ce que l'on peut dire de cette Alliance démocratique nationale, donc ce groupe de 15 partis qui a donné son accord pour former un gouvernement? Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette alliance, et est-ce qu'elle peut, d'après vous, durer?
C'est une alliance qui est à géométrie variable. C'est une alliance que pendant très longtemps, on a mis en sommeil parce que tout simplement, le BJP était majoritaire. Donc, il n'est plus besoin de ses partenaires. Maintenant, tout change. Hein, et c'est bien ce qu'il faut retenir de ce scrutin. Dès lors que deux partis, le parti de Nitish Kumar, le Janata Dal United, qui est basé au Bihar, l'État que dirige Nitish Kumar, et que le TDP, le Telugu Desham Party de Naidu, qui dirige lui l'Andhra Pradesh, deviennent essentiels à la conduite des affaires, Modi se retrouve dans une situation totalement inédite. Alors je souligne le caractère inédit de la situation, car c'est un homme qui n'a jamais eu à composer avec des partenaires pour gouverner. Quand il était chef du clan du Gujarat, il a été élu 3 fois avec une majorité absolue, et quand il est devenu Premier ministre de l'Inde, il a aussi, de 2014 à maintenant, été totalement maître de sa majorité. Il n'avait pas besoin de négocier. Et c'est un point important parce qu'il ne sait pas nécessairement négocier. C'est un homme dont la verticale du pouvoir s'impose, sa personnalité autoritaire y contribue, s'imposait, faut-il dire, parce que maintenant, il va falloir composer, il va falloir négocier. Et ces deux hommes, Nitish Kumar et Naidu, ont l'habitude de passer d'une alliance à une autre, d'une coalition à une autre, ne sont pas du tout des alliés anciens, fiables, qu'on pourrait espérer du côté du BJP. Et ça va donner sans doute du fil à retordre à Narendra Modi. La négociation s'engage sur la distribution des portefeuilles ministériels. C'est une première étape. Il y en aura bien d'autres. Chaque projet de loi va être négocié désormais. Et on va évidemment voir comment est-ce que Modi réussit à changer de style. Mais s'il n'y arrive pas, il n'est pas exclu que le BJP et puis le RSS, qui est la maison mère du BJP, envisagent de le remplacer par un homme qui serait plus à même de diriger une coalition, un homme qui rappellerait par exemple Atal Bihari Vajpayee, le premier ministre BJP que l'Inde ait connu dans les années 98, 99 et jusqu'à 2004. Et là, on aurait, alors là, un véritable tournant, un vrai changement qu'on ne peut pas exclure, qui peut être de l'ordre du possible dans les mois, les années qui viennent.
Alors Jean-Luc Racine, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Christophe Jaffrelot, qui a donc évoqué cette situation inédite pour Narendra Modi, qui va devoir composer, lui qui a l'habitude d'un pouvoir très, très, très vertical. En tout cas, il entame ce troisième mandat politiquement affaibli.
Oui, alors ça n'est évidemment pas apparu dans le discours qu'il a fait à ses militants au siège du parti, au lendemain des résultats, où il a mis en avant les victoires du BJP dans certains États indiens, et il est vrai que dans certains États, ils ont fait 100% des sièges. Mais pour revenir au cœur du problème, c'est-à-dire une coalition inédite pour Narendra Modi, les deux partenaires clés que Christophe a cités, le Telugu Desam et le Janata Dal, à eux deux, ils ont 28 sièges. Le BJP en a 240. La majorité, c'est 272. Alors évidemment, il y a d'autres partis plus modestes dans la coalition. Mais donc l'alliance autour du BJP, aujourd'hui, c'est 292. Mais si ces deux partis clés, et dont on a dit qu'ils étaient d'une certaine flexibilité dans leur mouvement politique, s'ils se retirent, ça tombe. Donc là, il y a effectivement une faiblesse du pouvoir parce que Modi ne peut pas compter sur ces deux parties clés absolument. On a vu historiquement Naidu, le patron du Telugu Desam, jadis critiquer vertement Modi. On a vu Nitish Kumar au Bihar changer d'alliance. Il a rejoint de nouveau l'alliance de Modi il y a quelques mois, alors qu'il était dans un autre camp il y a un an ou deux. Donc ça ajoute à la fragilité. Le fait qu'il y ait un gouvernement de coalition, c'est plutôt un retour à la normale dans l'histoire politique indienne, mais avec quelqu'un qui n'est pas habitué précisément aux coalitions.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Donc un Narendra Modi affaibli et fragile. Christophe Jaffrelot, quelques mots sur l'opposition. Comment va-t-elle se comporter durant ce nouveau mandat? La personnalité de Rahul Gandhi, est-ce que l'opposition s'est trouvée un leader? Et quel a été finalement le programme de l'opposition durant cette campagne, Christophe Jaffrelot?
Alors c'est de ce côté-là que vraiment on trouve la nouveauté la plus intéressante. Car du côté du BJP, franchement, Modi a labouré les terres qu'il connaissait déjà et toute la campagne a été axée sur le musulman infiltrateur, polygame, caricaturé d'une manière extraordinaire. Bon, côté de l'opposition, on a vu des choses nouvelles. D'abord, on a vu une unité qui n'était pas évidente parce que tenir ensemble près de 30 partis, ça n'était pas si facile. D'ailleurs, il y a eu des pertes en ligne. D'ailleurs, Nitish Kumar était d'abord dans cette opposition avant de passer de l'autre côté. Mamata Banerjee a fini par rester à l'écart au Bengale occidental. Mais quand même, on est au final avec une très large coalition. Il rappelle tout de même ce qui se passe partout quand un homme fort finit par être la cible de tous les opposants. On a vu l'opposition s'unir en Turquie contre Erdogan, s'unir en Pologne contre Kaczynski, s'unir en Hongrie contre Orban, s'unir en Israël contre Netanyahou. Des partis qui ont très peu de choses en commun finissent par se réunir derrière une bannière qui est comment déloger l'homme fort. Alors ça prend 5, 10, 15 ans, mais ça finit par arriver. La deuxième chose très importante, c'est qu'effectivement, cette coalition s'est trouvée un leader à travers Rahul Gandhi, qui a été métamorphosé par les grandes marches qu'il a menées du sud au nord, de l'est à l'ouest de l'Inde, et son image a complètement changé. Dieu sait s'il a été tourné en ridicule par Modi, qui maintenant doit le prendre au sérieux, car c'est un homme qui aura montré sa capacité à faire travailler ensemble des partis régionaux, à réorganiser le parti du Congrès, qui a quand même connu des élections internes après des décennies où ce n'était pas la démocratie de parti vraiment qui primait. Et la troisième chose qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse encore davantage, c'est effectivement le programme. C'est un parti, enfin c'est une coalition qui a un programme très orienté sur les questions sociales. Et donc on est en train de faire bouger les lignes. Là, le centre de gravité se déplace de la politique identitaire du nationalisme hindou vers des questions sociales, alors qui sont à la fois de l'ordre de la classe sociale, et Dieu sait si on parle du problème des paysans, notamment dans ces programmes, mais qui sont aussi de l'ordre de la caste. Et là, on retrouve quelque chose qui est devenu, je dirais, structurel dans la politique indienne. Ça fait maintenant 40 ans que les deux pôles entre lesquels oscille la politique indienne, c'est le nationalisme hindou, l'identité nationaliste hindoue, l'hindutva, et la caste comme point de ralliement, de mobilisation. Et dans le programme de cette coalition, il y a notamment l'organisation d'un recensement de la caste, un caste census, un recensement des castes qui permettrait de vérifier que les basses castes sont sous-représentées dans l'appareil d'État, dans l'économie en général. Et c'est un mot d'ordre qui a été mobilisateur. Et ce sera, vous me demandez ce que va faire l'opposition, je ne doute pas que ce sera un des thèmes que ces élus ont poussé au Parlement. Et ils auront sans doute l'oreille complaisante de l'un des partenaires de Narendra Modi, Nitish Kumar, qui en tant que chef du gouvernement du Bihar, a été le premier à organiser un recensement de castes il y a maintenant 2 ans. Et là, on va avoir alors une thématique qui va revenir en force, la caste, qu'on avait voulu oublier, que le BJP avait voulu mettre à la périphérie du discours politique. On revient à une sorte de dialectique entre identité de caste, identité religieuse.
Alors, plein de choses par rapport à ce que vient de dire Christophe Jaffrelot, Jean-Luc Racine. Alors, effectivement, une opposition plus unie, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle sera plus efficace? Donc, les deux sujets, finalement, sur lesquels l'opposition entend aller titiller, maudit, voire avoir davantage, Christophe Jaffrelot l'a dit, donc la question du nationalisme hindou et la question de la caste. Comment comprendre l'importance, alors, le nationalisme hindou, on en a beaucoup parlé durant la campagne. La question de la caste peut-être un peu moins pour nos auditeurs. En quoi cette question-là est-elle très importante?
L'enjeu majeur, c'est ce qu'on appelle les réservations, c'est-à-dire en fait la discrimination positive. Dans l'Inde, un certain nombre d'emplois publics, que ce soit dans l'administration ou que ce soit dans les universités publiques, sont réservés à ce qu'on va appeler, pour faire bref, les basses castes. Il y a après des subdivisions entre les Dalits, les anciens intouchables, les tribaux et ce qu'on appelle les castes défavorisées. Et pendant la campagne, Narendra Modi était allé jusqu'à dire que l'opposition, si elle arrivait au pouvoir, allait finalement supprimer les réservations des basses castes hindoues au bénéfice des musulmans, encore une fois. Tout ça parce que dans un ou deux États, il y avait, disons, 3% de réservations qui étaient au bénéfice des musulmans, alors que ça n'est pas le cas à l'échelle nationale. Donc cette question, elle est absolument essentielle, parce qu'elle rejoint évidemment la question de l'emploi et du chômage. Et on a vu, et en particulier dans un État tout à fait remarquable qui est l'Uttar Pradesh, donc le plus peuplé des États indiens, plus de 200 millions d'habitants, qui était un bastion du BJP. On a vu le BJP passer au second rang, derrière l'alliance menée par le Congrès, mais avec en premier plan un parti de l'Uttar Pradesh, qui est arrivé en tête et qui a su, justement, lui qui était sur une base, certaines castes moyennes mais dominantes arithmétiquement, plus les musulmans, on a vu ce parti élargir son auditoire et finalement remporter 37 sièges sur 80. Le BJP n'atteignant pas ce score, alors qu'il avait fait beaucoup mieux aux dernières élections. Et dans d'autres États, quand on analyse finement ce qui s'est passé, on s'aperçoit aussi que cette dynamique qui essaie d'agréger, c'est pas une caste en tant que telle, mais d'agréger des groupes de castes plus ou moins défavorisés, c'est essentiel pour mettre en marche une machine électorale qui met de côté le grand discours identitaire, l'unité des hindous face au péril musulman, entre guillemets. Et là, il y a une certaine logique à tout ça, bien sûr, on recroise de façon efficace les questions socio-économiques et les questions sociologiques.
Alors, les questions socio-économiques sur lesquelles on n'a pas le temps, pour terminer cette première partie d'émission, d'aborder avec vous, mais on en verra les signes tangibles qui sont visibles en Inde. C'est la question que je vous poserai pour redémarrer la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Jean-Luc Racine, avec Christophe Jaffrelot, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'Inde avec le troisième mandat de Narendra Modi qui est désormais lancé après des élections bien plus serrées qu'attendues. Nous retrouvons nos invités, Christophe Jaffrelot, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et au CNRS, professeur au King's College de Londres, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre. J'aimerais qu'on aborde un tout petit peu les questions, parce qu'on l'a évoqué dans la première partie de l'émission sur les thèmes de campagne.
La dissolution de l'Assemblée nationale, Valérie Gasse, c'est un coup de théâtre, c'est une surprise totale.
Oui, tous les signaux qu'on avait avant le scrutin d'aujourd'hui de la part de l'entourage du président de la République étaient plutôt dans le sens de, bon, une élection européenne, ça ne nécessite pas forcément, même si le score n'est pas bon pour la majorité, de faire des modifications, des changements, de le prendre en compte. Et le président lui-même avait dit « je verrai bien », ne donnant pas l'impression qu'il allait faire des grands chambardements. Et puis, en effet, c'est tombé tout à l'heure. D'abord, l'annonce d'une prise de parole du chef de l'État qui était inattendu, hein. Et d'ailleurs c'est inédit qu'un président de la République s'exprime au soir d'une élection européenne de cette manière. Donc déjà ça, il y a eu un premier choc, disons-le, sur mais pourquoi Emmanuel Macron allait-il parler, et puis ensuite la rumeur de l'annonce d'une dissolution, et en fait cette annonce qui est bien tombée, alors que c'est ce qu'avait demandé le Rassemblement National. Jordan Bardella l'avait encore redit, il voulait que le président poussait le président, mais c'était un peu comme un défi dont on se disait qu'il ne le relèverait pas. Eh bien, Emmanuel Macron prend le Rassemblement National au mot et prend les Français à témoin. Il ne veut pas rester dans une situation où le Rassemblement National et les autres forces d'extrême droite représentent 40% des voix et 40% des électeurs dans le pays. Et donc, il veut repasser par le suffrage universel, par le peuple. Et il fait confiance au peuple pour faire le bon choix cette fois-là. Donc, Emmanuel Macron tente le tout pour le tout.
Alors, je le disais, il a pris de court un petit peu tout le monde. En tout cas, ça a été une surprise pour nous tous dans cette rédaction, quand nous avons regardé il y a de cela quelques minutes le chef de l'État. Est-ce que la surprise a été partagée ? Est-ce qu'elle a parcouru les militants du parti Renaissance ? Vous êtes à son quartier général du soir, Charlotte Urien-Tomaka pour RFI.
Oui, tout à fait. Eh bien, la rumeur enflait depuis aux alentours de 18h30, 19h. Cette rumeur dont on disait qu'Emmanuel Macron allait possiblement dissoudre. Les militants avec lesquels j'ai pu m'entretenir n'y croyaient absolument pas. Les ministres non plus, d'ailleurs, puisque plusieurs ministres sont présents dans cette salle. Personne ne voulait y croire. Et puis, la rumeur est devenue une certitude. Et lorsqu'Emmanuel Macron a fait son annonce, puisque l'annonce a été diffusée en direct dans cette salle de la Mutualité bien pleine, de quelques 300 militants, eh bien les militants ont crié, puis ont applaudi le chef de l'État en disant que c'était très courageux. J'ai pu m'entretenir donc avec des personnes présentes ici dans la salle qui trouvent que cela est énorme, comme ils le disent, et que le chef de l'État cède à la demande de Jordan Bardella, le président du RN, qui a donc demandé au président de dissoudre ce soir suivant les résultats de ces élections européennes. Les militants qui ont donc des mines déconfites. Et alors on nous dit ici qu'il y a de grosses tensions au sein de la majorité, en interne, parmi les cadres de la majorité, parmi les députés qui trouvent que c'est extrêmement dangereux de dissoudre ce soir et de laisser le Rassemblement National progresser encore dans cette future élection législative.
Bien évidemment, les réactions ne vont pas tarder. Tout d'abord, celle de François Bayrou, qui est président du Modem, le Modem qui est allié au parti Renaissance, au parti présidentiel. François Bayrou dit ceci: je salue une prise de risque du président pour sortir le pays du marasme. C'est le terme employé. On le disait avec Valérie Gasse il y a de cela quelques instants. Il y a une heure dix de cela, Jordan Bardella faisait sa première prise de parole après l'annonce des estimations qui place le RN à 31,5% ce soir à l'issue de ce scrutin européen. Et justement, il demandait à Emmanuel Macron de rendre des comptes de cette manière.
L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Le président de la République ne peut rester sourd au message envoyé ce soir par les Français. En premier lieu, il doit renoncer à l'agenda qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre. La désindexation des pensions de retraite, la nouvelle hausse des prix de l'énergie dès cet été, la casse de notre modèle social ou encore l'application du pacte asile et immigration qui prévoit d'intensifier la répartition des migrants dans les communes de France. Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli, jusqu'ici privé de majorité absolue à l'Assemblée et désormais rétréci dans ses moyens d'action au sein du Parlement européen. Sous peine de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives.
Et ce sera donc fait le 30 juin pour le premier tour, le 7 juillet pour le second tour. Jordan Bardella a obtenu gain de cause. Chiche, finalement, lui a répondu le président de la République, Valéry Gasse.
Oui, le président a fait le constat que la France a besoin d'une majorité claire, c'est ce qu'il a dit, que l'élection européenne a marqué le bout du chemin de cette majorité relative qui était issue des élections présidentielles de 2022. Il arrivait à un moment où il pouvait difficilement, a-t-il jugé, finalement, faire comme si de rien n'était et laisser le Rassemblement national qui racolait essayer d'exploiter cette victoire aux européennes sur le long terme. Alors il l'a dit, il préfère choisir d'écrire l'histoire plutôt que la subir. C'est la méthode qu'a choisi le président. Il l'a dit aussi, c'est le seul dans cette histoire-là qui n'a aucun enjeu pour la présidentielle de 2027. Donc il se sent assez libéré de ce point de vue-là, pour tenter un va-tout, hein, le tout pour le tout, et essayer de dire aux Français, eh bien maintenant, vous avez donné ce score au Rassemblement National, ok, mais si vous voulez vraiment, vous leur donnez la majorité à l'Assemblée Nationale. Je pense qu'il va y avoir une campagne très dure, là, pour le coup, hein, sur les européennes. La majorité avait mis beaucoup de temps à rentrer en campagne, à faire valoir des arguments, à être convaincante. Là, il va falloir y aller, parce qu'il y a de gros enjeux. Le pari du président, c'est certainement que sur les élections législatives, le score ne sera pas le même et qu'il y aura une prise de conscience des électeurs français. C'est un vrai pari. On va voir jusqu'où ça le mène. Ça va aller très vite, hein, puisque premier tour le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet. Mmh. Et tout ça avec les Jeux Olympiques qui arrivent derrière.
Est-ce que Emmanuel Macron montre une fois de plus ce soir qu'il est conforme à ce qu'il veut être, Jupiter et maître des horloges? C'est lui qui décide.
Oui, c'est lui qui décide, mais constitutionnellement, c'est lui qui décide. Donc, de fait, il a une utilisation des institutions un petit peu. C'est vrai qu'on l'a beaucoup décrit comme Jupiter et maître des horloges au début de son premier quinquennat. Depuis, les horloges l'ont un petit peu sonné, lui ont un peu sonné dans les oreilles et il a eu moins de maîtrise jupitérienne. Mais néanmoins, il reste constitutionnellement celui qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, de convoquer des élections législatives. Il a une grosse carte dans sa main. C'est très difficile de la sortir, cette carte, parce que vraiment, c'est un risque. On en connaît d'autres, comme Jacques Chirac, qui avait tenté la dissolution et ça n'avait pas été vraiment une bonne idée. Maintenant, ça veut dire peut-être qu'il est prêt à une cohabitation. En tout cas, ça veut dire que politiquement, il n'a pas l'intention de lâcher et qu'il veut essayer par tous les moyens de couper l'élan du Rassemblement National, l'élan que cette élection européenne était en train de donner au Rassemblement National.
Alors justement, le Rassemblement National dit ceci par la voix de Marine Le Pen. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Les Français qui auront donc le droit de vote le 30 juin et le 7 juillet. Bonsoir Erwan Estrohan.
Bonsoir.
Directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Merci de nous rejoindre. Personne ne s'attendait à ce coup de théâtre ce soir.
Oui, tout à fait. C'est une décision qui est inédite dans l'histoire des européennes. Au titre du contexte, parce que la majorité présidentielle réalise le même score que la liste du Parti Socialiste en 2014... C'est intéressant de noter, parce qu'on a beaucoup dit ces dernières semaines que François Hollande n'avait pas tenu compte des résultats en 2014, avait conservé Manuel Valls à Matignon. Par contre, il venait de le nommer, parce que Manuel Valls avait été nommé après des municipales qui avaient été défavorables à la majorité socialiste. Donc là, c'est une réaction. On mesurait dans un sondage en fin de semaine dernière, 7 Français sur 10 souhaitaient qu'Emmanuel Macron tire des conséquences politiques nationales de ce scrutin. On l'a vu, il était particulièrement nationalisé. Aujourd'hui, ça a quand même les atours d'un pari perdant au vu des rapports de force électoraux. Jusque-là, les Français ont été plutôt peu convaincus des outils de démocratie directe qui ont été mis en place ou de démocratie participative par le président, hein, le Conseil de la Refondation, les rencontres de Saint-Denis. Le grand débat national avait quand même suscité un regain de popularité. Tout le débat Et la question qui va se poser de plus en plus dans les prochaines semaines, maintenant qu'on voit que le parti, le RN, est un parti solide de premier tour, c'est la consistance du RN au deuxième tour, parce que les législatives, c'est 577 duels dans toute la France. Ça pose la question de l'acceptabilité sociale du vote RN, de la subsistance du Front républicain. Ça va être le grand enjeu, c'est ça, c'est comment le RN peut gagner des duels face à la gauche, face à la majorité présidentielle. Est-ce que le Front républicain subsiste ? Est-ce que la logique du nini reste la règle à droite ? Ça va être l'enjeu, parce qu'il va y avoir énormément de duels qui peuvent avoir des conséquences fortes.
Autre réaction, celle du patron du Parti communiste français qui appelle la gauche à travailler à un pacte pour la France. Alors tout cela, cette dissolution, elle fait suite à l'annonce des résultats de ce soir lors de cette élection européenne. Je vous les redonne, en tout cas les estimations de notre partenaire Ipsos. Le RN à 31,5% des voix, le Parti socialiste à 14,7%, le Parti présidentiel à 14%, la France insoumise à 9,5%, les Républicains à 7,2%, les écologistes à 5,5% et Reconquête à 5,4%. Donc si on fait Reconquête plus le RN, on arrive à peu près à 36%, plus le parti de Florent Philippot, plus d'autres petits partis classés à l'extrême droite. Ça veut dire que ce soir, l'extrême droite, lors d'un premier tour, fait 40% des voix. Valérie Gasquier, considérable.
C'est considérable, c'est ce que dit le président de la République, hein, c'est que la totalité des voix d'extrême droite en France représente ce score qu'on n'imaginait pas, hein, il y a encore, j'allais dire, quelques années, mais non, quelques mois, quelques semaines hier, hein, le 40% en France. Et c'est vrai que pour la France, pour le fonctionnement de la France, mais aussi pour l'image internationale de la France, c'est quelque chose de terrible. Donc Emmanuel Macron a décidé qu'il fallait faire quelque chose et qu'il n'avait pas trop le choix, en fait, sur les armes à utiliser pour essayer de reprendre la main, de tenter. Mais c'est vrai que ça va être difficile. Ce que vous disiez, M. Estran, est particulièrement vrai. Ce n'est pas du tout le même scrutin des élections législatives, des élections européennes. Alors, c'est sûr que là, le RN est dans une pente ascendante. Maintenant, il y a beaucoup d'aspects qui vont jouer dans les élections législatives qui vont être défavorables au RN. Mais c'est un gros risque.
Enfin, clairement, là, on aura un scrutin franco-français. Et là, on peut toujours dire, bah oui, mais des gens ont voté pour l'Europe, n'ont pas osé voter RN, ou au contraire, ont voté RN parce que ça ne les impliquait pas forcément le lendemain, le 10 juin. Là, avec cette dissolution et ces élections législatives qui s'annoncent dans 2-3 semaines, on aura un scrutin franco-français. Donc là, ce sera intéressant de voir si l'électorat d'extrême droite assume complètement.
Oui, alors l'électorat d'extrême droite, de toute façon, avait nationalisé le scrutin. On avait un Français sur deux qui nous disait voter en priorité en fonction d'enjeux nationaux. Ils étaient 3 sur 4 chez les sympathisants du RN. C'était un scrutin national pour eux. Mais je rebondis sur ce que disait Valérie Gasse. L'élection législative, ça peut poser de gros problèmes au RN, ne serait-ce que sur le plan de la logistique et du vivier d'élus potentiels. Il va falloir des têtes de liste dans 577 circonscriptions. On a vu que le RN avait souvent eu des problèmes avec des têtes de liste qui avaient été choisies un peu au débotté ou sur du court terme. Là, on est sur une très courte période. C'est peut-être ça qu'espère Emmanuel Macron. C'est non seulement voler la victoire du RN ce soir en coupant l'herbe sous le pied de Jordan Bardella et en prenant l'initiative de la dissolution, d'une part, et d'autre part, de placer l'élection dans un temps suffisamment court pour que logistiquement elle soit difficile à mettre en place pour le Rassemblement National.
Alors, comme on parle du Rassemblement National, je vous propose d'écouter la présidente du groupe RN à l'Assemblée, Marine Le Pen.
Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc, le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays prêt à faire revivre la France.
Marine Le Pen qui relève le gant maintenant que le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous écoutez RFI.
Édition spéciale, Philippe Le Caplin.
Coup de tonnerre dans la vie politique française avec cette dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir du résultat des élections européennes qui place le RN à 31,5%, deux fois plus que le parti présidentiel. Les réactions, bien évidemment, tombent comme à gravelotte. Qu'en est-il du côté de Bruxelles, donc au cœur de l'Europe, Pierre Benazet?
Alors pour l'instant, évidemment, c'est la grosse nouvelle du jour pour les Européens, pour beaucoup d'entre eux qui sont évidemment toujours consciemment focalisés sur leurs propres résultats nationaux. Mais cet événement en France est évidemment une nouvelle d'importance, d'autant qu'on attend encore des résultats définitifs dans les partis où, là aussi, l'extrême droite, les populistes, les eurosceptiques en général pourraient enregistrer des poussées supplémentaires. On pense au mystère sur le résultat réel du Fidesz en Hongrie. On attend des résultats pour très tard, enfin pour 23 heures en Italie. Il y a une recomposition politique qui est en train de se faire au Parlement européen. A priori, la majorité actuelle, qui comprend le centre-droit, les sociaux-démocrates, les centristes et les verts, pourrait être reconduite pour les 5 ans à venir. Mais il reste qu'on sent effectivement cette poussée, peut-être un peu moins forte qu'annoncée au niveau européen, cette poussée des partis de la droite. Il y aura une influence évidemment au sein du Parlement européen. Mais pour la position de la France, ça va avoir un impact très direct parce que, alors tout d'abord, le choix de la future présidente de la Commission ou du futur président de la Commission, ça va se passer d'ici fin juin, donc avant le deuxième tour des législatives en France. Donc il n'y aura pas encore d'hypothèse de cohabitation. C'est après que ça va changer, évidemment, beaucoup. Là, le poids de la France dans l'Union européenne, au sein du Conseil européen des 27, va être évidemment complètement modifié s'il y a une cohabitation, comme ça s'est déjà passé par trois fois. C'est le seul moment où les Européens ont vu arriver des premiers ministres français à Bruxelles. On a vu à l'époque Jacques Chirac, puis Édouard Balladur, puis Lionel Jospin. C'est le seul moment où la France était représentée par deux personnes, et ça change un petit peu la vision des Européens de ce qui se passe en France, et puis surtout ça peut affaiblir un peu la France. Ça s'est déjà passé lors des coalitions précédentes. La grande question est de savoir comment est-ce qu'on va par exemple poursuivre l'unité européenne sur la guerre en Ukraine s'il y avait un jour une cohabitation où le Rassemblement national envoyait un Premier ministre à Matignon.
Oui, dans la mesure où Rassemblement national, pardon, sur la question ukrainienne, demande finalement l'allègement ou l'annulation des sanctions qui visent la Russie, Valérie Gass. Donc la position du RN concernant l'Ukraine est quand
non,
même...
Non, le Rassemblement a arrondi les angles sur l'Ukraine. Ils affichent leur soutien. Ils ne veulent pas... ils sont en désaccord avec les propositions d'envoyer des troupes au sol ou l'envoi des missiles sur les cibles russes. Mais ils ont été obligés dans cette campagne, le Rassemblement national, de se mettre un petit peu au diapason de la respectabilité européenne. C'est pas forcément ça l'enjeu qui va se jouer ce soir.
Bonsoir Pierre Mathieu.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, merci d'être en ligne dans cette édition spéciale de Radio France Internationale. Est-ce que vous, comme nous, avez été cueillis à froid en écoutant le président de la République il y a de cela 25 minutes?
Bah écoutez, oui, c'est une forme de surprise. Hein. C'est probablement une tentative chez le président de conserver la main encore et de peut-être de d'atténuer, en tout cas médiatiquement, la victoire large du Rassemblement national ce soir en dépassant cette victoire par une annonce encore plus forte que la victoire de Jordan Bardella, c'est-à-dire la dissolution. Hein. Ça me fait penser à cette citation de Jean Cocteau: quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Donc il y a probablement cette dimension. Il y a probablement une dimension de coup politique.
Oui, enfin, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que le Rassemblement national appelait le président de la République à prendre le résultat à la lettre et soit de partir, soit de dissoudre. D'ailleurs, ça avait été une des conditions de Marine Le Pen.